Des ponts et des liens sur radioéquilibre.com. Bâtir le futur et mieux vivre le présent avec des ponts et des liens. Variations sur l'humain, les organisations et les sciences humaines. Des ponts et des liens avec Evelyne Bertin sur radioéquilibre.com.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, notre thème va être le burn-out, mieux comprendre pour mieux agir et mieux se préserver et préserver les autres. Le burn-out, c'est un mot qui veut dire brûlure interne et qui a été inventé en 1980 par Freudenberger. En 1980, Freudenberger a publié un livre remarquable qui a traité de l'épuisement professionnel. Il ne se doutait pas que cet ouvrage deviendrait une référence, parce que en début 80, on parlait peu encore de souffrance au travail, d'épuisement au travail et tout ça. Et après, son livre est devenu... Il y a à la fois son livre qui est resté et le terme, qu'on pourrait traduire l'expression « brûlure interne ». Et il disait « En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consommer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un immense vide intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » Fermez les guillemets. Donc on voit que pour lui, c'est vraiment une brûlure interne et que les gens sont comme grillés de l'intérieur. Actuellement, il y a une définition un peu plus consensuelle du burn-out. Je cite « Le burn-out, c'est un état d'esprit durable, négatif et lié au travail qui affecte des individus normaux, entre guillemets. Il est d'abord marqué par l'épuisement, accompagné d'anxiété ou de stress dépassé, d'un sentiment d'amoindrissement de l'efficacité, d'une chute de la motivation et du développement de comportements dysfonctionnels au travail, comme la manque de patience, manquer des activités, se tromper de salle, se tromper d'heure. Cette condition psychique est progressive et peut longtemps passer inaperçue du sujet lui-même. Elle résulte d'une inadéquation entre les intentions et la réalité professionnelle. Le burn-out s'installe en raison de mauvaises stratégies d'adaptation adaptées au syndrome, souvent auto-entretenu, de par l'écart entre les intentions et la réalité. Ça nous souligne le rôle des attentes, mais également des représentations que le sujet s'est fait par les passés de son métier, de sa profession ou de son entreprise, et qu'il continue à chaque jour à construire et à faire évoluer. Donc pour résumer, dans le burn-out, il y a comme une dissociation entre l'action qu'on veut faire, l'idée qu'on a de notre travail ou notre tâche dans l'esprit et la réalité de la tâche qu'on effectue. Souvent, dans la littérature, on dit que le burn-out est lié au stress. Alors, le stress, c'est souvent présenté comme un processus adaptatif qui ne devient pathogène que lorsque le sujet estime que les ressources dont il dispose ne lui permettent pas de faire face. Dans le burn-out, l'individu il est surpassé. Mais souvent, il est dans le déni de se surpasser. C'est pour ça qu'il se rend compte qu'il est en burn-out que quand il est complètement en stress dépassé, qu'il est déjà complètement abîmé et qu'il ne peut plus réagir. Quand on parle d'état de stress post-traumatique, là, c'est déjà qu'on est rendu dans le burn-out. Parce que ce n'est plus une adaptation, comme un stress qu'on peut gérer, mais c'est un dépassement et on n'arrive plus à gérer. Souvent, le burn-out arrive dans des gens qui sont très très impliqués dans leur travail. Et au début, tous les travaux sur le burn-out portaient sur des gens qui ont des métiers qui nécessitent un très fort investissement personnel dans le travail et on parlait de fatigue compassionnelle, c'est-à-dire tous les métiers liés aux soins, à l'accompagnement, où il y a un fort investissement humain comme infirmière, médecin, pompier, policier. Vous voyez, et ça nécessite une intelligence compassionnelle très très forte. Et après, ça a touché même des entreprises comme les banques, le nucléaire, les services, qui n'avaient plus rien à voir avec une compassion forcément liée au métier. Donc ça a évolué. Donc on peut dire que quand il y a un burn-out, il y a une érosion de l'empathie, hein, même quand on n'est pas dans des métiers qui nécessitent de l'empathie, il y a une érosion de l'optimisme et il y a une érosion de la compassion. Alors, dans cette émission des ponts et des liens, on va aborder le fait que un burn-out, ça arrive jamais chez n'importe qui. Ça arrive souvent chez des individus, comme je te disais, qui sont passionnés par leur travail, mais c'est souvent des gens qui n'arrivent pas à dire non à l'autre ou qui sont tellement passionnés par leur travail qu'ils ne reconnaissent pas leurs propres limites, que ce soit leurs limites physiques, leurs limites de travail ou leurs limites psychiques. Hein, parce que quand on est en burn-out, c'est qu'on n'a pas su gérer l'engagement. Que dans l'engagement qu'on a avec le monde, avec les autres, avec son travail ou avec sa tâche, on a été trop loin et qu'on s'est brûlé. Ou on n'a pas su dire non à des supérieurs hiérarchiques ou à l'organisation qui nous demandait quelque chose. Donc, dans cette émission qui s'appelle « Des ponts et des liens », ce qui nous semble important de dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une bonne qualité de lien avec le monde, de rapport au monde, de qualité de travail, si on ne se connaît pas bien soi-même, avec ses atouts, ses limites, et que dire non à l'autre, c'est dire oui à soi, et c'est savoir se préserver. Et un des problèmes qu'on rencontre dans les organisations, et qui est dû à la mondialisation, et qui est dû aussi à l'économie numérique et au virtuel, c'est que quand on est dans le virtuel face à un ordinateur, vous avez beaucoup de systèmes informatiques où les gens ont l'impression de ne jamais finir une tâche. Que la tâche qui leur est demandée, c'est comme un puits sans fond. Dans certaines structures, ils ont les tâches qui s'affichent à l'écran, mais il n'y a jamais de fin. Et ça, pour des individus qui n'arrivent pas à se s'autoréguler en termes de « je me déconnecte »,« je dis que j'arrête mon travail à telle heure », ça, c'est très, très dangereux. Dans le virtuel, il y a un autre phénomène qu'on rencontre dans les organisations et qu'on a tous connu par mail ou quand on fait appel à une plateforme téléphonique, on ne se rend pas compte de la charge de travail qu'on demande à l'autre. Et on croit que parce qu'on envoie un mail à quelqu'un et qu'on met 15 pièces jointes, la personne va lire les pièces jointes. Donc vous voyez, il y a une dérégulation qui est liée à l'économie numérique de l'idée qu'on peut avoir de la charge de travail qu'on demande à l'autre. Et de l'idée que l'autre peut se faire de la charge de travail qu'il reçoit et qui se rajoute à la pressurisation qui est faite des gens du fait de la mondialisation de l'économie. Donc si, pour tout un chacun, quand on est en période de fragilité et qu'on n'arrive plus à bien mesurer nos limites et à dire non à l'autre, à quitter son travail au bout d'un certain temps et à se dire « cette tâche-là, je la ferai demain », on se met dans une obligation de réponse à l'autre ou à l'organisation qui peut nous mettre dans un épuisement physique et mental. Donc il y a cet aspect-là qui est important à soulever. Et vous avez des individus qui sont complètement work-alcooliques, c'est-à-dire que l'alcool est devenu pour une drogue, parce que plus rien ne les intéresse à l'extérieur, ils ont des problèmes à l'extérieur, et le travail est devenu un refuge, et qui n'arrivent plus à se déconnecter que s'ils ont perdu leur téléphone portable, ils sont paumés. Hein. Et vous avez plein de gens actuellement qui ne se déconnectent plus sur les plages, le week-end. Ça, c'est très, très dangereux. Parce que le cerveau, lui non plus, ne se déconnecte plus. Et le cerveau a besoin de repos. Donc, ce qu'on pourrait dire, la première alerte, moi, qui me paraît importante à donner, c'est si un jour, le soir, quand vous rentrez chez vous, vous n'arrivez pas à penser à autre chose que votre travail, là vous êtes en danger. Parce que ça veut dire que vous n'arrivez plus à vous déconnecter. Si vous n'arrivez plus à prendre de plaisir en marchant et que vous êtes complètement obnubilé par vos soucis de travail ou la nuit vous réveillez, vous pensez à votre travail, là c'est déjà un petit peu trop tard. Et en plus, ce que j'ai pu observer dans les gens qui sont en début de burn-out, c'est qu'ils ne s'autorisent pas un arrêt de travail. Aller voir un médecin, parler à quelqu'un des problèmes qu'on a, c'est une force parce qu'on prend conscience qu'on a besoin de l'autre. Donc, si jamais ça vous arrive, ça, que vous commencez à être complètement submergé de travail, vous ne profitez plus de rien en dehors de votre travail. Vous n'arrivez plus à profiter soit d'une séance de cinéma, soit des actualités le soir à la télé. Quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes même pas en état de lire les journaux auxquels vous êtes abonné, de prendre un livre. d'être calme avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis, là, ça veut dire que vous êtes envahi psychiquement. Donc, osez vous arrêter, osez vous poser. La réflexion sur soi, sur le sens qu'a notre vie, sur le lien qu'on a avec le monde, elle peut ne se faire que dans un arrêt. Et quand on est en burn-out, là, elle se fait par un arrêt qui est dans l'ordre de la maladie. Mais profitez de cet arrêt, c'est peut-être ça qui va vous sauver. Parce que ça va vous amener à revisiter vos valeurs, vos priorités. Il y a des travaux actuellement qui disent que des gens qui sont en burn-out grave, il faut 2 ans pour se remettre. Donc vous voyez l'état d'atteinte à la fois physique, psychique, confiance en soi, que ça porte. Quand vous revenez au travail après 2 ans, la renégociation du poste, ça va être compliqué. Vous voyez, les gens vont vous regarder pareil. Donc, si un jour ça vous arrive, je peux vous souhaiter que ça dure moins de 2 ans, mais profitez de ce temps pour vous faire aider. De penser qu'il y a des gens, quels qu'ils soient, un médecin généraliste, un psychiatre, un psychothérapeute, n'importe quel type de psychothérapie, ça va vous permettre de vous poser, de vous demander quel sens a votre vie, comment ce burn-out est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Ça va vous permettre de vous poser, de revisiter vos valeurs, de vous autoriser des espaces de plaisir pour vous ressourcer. Parce que quelqu'un qui fait un burn-out, qui n'arrive plus à se déconnecter, c'est qu'il a complètement perdu le lien avec lui-même qui lui permet le repos et le ressourcement. Et qu'il a complètement perdu le sens de ses limites physiques, physiologiques, psychiques et psychologiques. Donc ça, c'est très très grave. Parce que ça veut dire que vous ne vous connaissez plus vous-même. Et que vous auriez pu avoir un accident de santé beaucoup plus grave. Moi, j'ai vu beaucoup de gens hyper brillants faire des arrêts cardiaques sur le lieu de travail. Et qui plus est, ces gens brillants qui ont eu des parcours d'excellence, ils n'ont jamais été confrontés à l'échec. Ils ont fait scolarité brillante, classe prépa, grande école, poste élevé, parcours de haut potentiel, et à 40 ans, crise cardiaque. Donc, et quand ils ne sont pas morts, qu'on leur dit que c'est peut-être leur chance qu'ils ne sont pas morts, que c'est le moment de s'interroger, c'est très très dur pour ces gens-là de s'interroger sur eux-mêmes. Parce que comme ils n'ont jamais connu l'échec, l'arrêt, l'écueil, c'est une remise en question qui est phénoménale. Donc, moi, je me dis que même un temps de grande fatigue au travail, il faut se questionner. Le travail, ça joue sur la création de votre identité, sur la valorisation de vous-même, mais c'est aussi un lieu où votre santé doit être préservée. Où, si vous voulez vous réaliser au travail... Il faut que vous soyez en bonne santé, pour avoir de bonnes relations, pour bien faire votre tâche, pour bien servir les gens que vous avez à servir, que ce soit vos clients, vos collaborateurs, vos collègues. Donc, l'interrogation sur soi-même, sur nos limites, sur jusqu'où on peut agir, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui m'apporte de la joie de mon travail, ça c'est vraiment un questionnement qu'il faut faire si jamais vous avez un burn-out. Donc... offrez-vous des moments de joie, même quand vous êtes au travail, et surtout en dehors de votre travail. L'être humain n'est pas un ordinateur, l'être humain n'est pas un robot. C'est pas oui ou non, c'est qu'est-ce que je fais, quel est le sens de ce que je fais, pour qui j'agis. Si on prend la parabole des talents, moi je crois que c'est très très important de se poser au moins une fois par semaine et de s'interroger. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de mes talents? Qu'est-ce que j'ai fait de mes talents pour les autres? Qu'est-ce que j'ai fait de mes talents pour les gens dont j'ai la charge? Qu'est-ce que j'ai fait de mes talents pour les gens que je commande? Posez-vous cette question-là. Et comme ça, ça vous aidera à vous préserver. Mais en aucun cas, si vous ne connaissez pas vos limites, si vous n'arrivez pas à vous arrêter, si vous n'arrivez pas à profiter de la vie en dehors de vos travail par d'autres activités... Là, vous ne profitez pas de vos talents et vous ne pourrez pas servir le monde avec vos talents. Merci de votre attention. À très bientôt.
Des ponts et des liens. C'était Evelyne Bertin sur radioéquilibre.com. Variations sur l'humain, les organisations et les sciences humaines. Bâtir le futur et mieux vivre le présent avec Des ponts et des liens. Des ponts et des liens sur radioéquilibre.com.